toit souvent rouge. Avec elle sa bouche, Maggie Soleil ou bien Maggie Larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama, elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime.
Bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en ne regardant que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui, pour ce 8e épisode, on va s'attaquer à la série Maggie, créée par Jean-Guy Gingembre et Stéphane Barbier. Avec moi pour vous parler de Maison Cosy à Vésinet, de Femmes de Ménage et de Bataille de Punchline, Ludo,
coucou,
Nelson,
Progeria,
Karim,
bonsoir,
et en invité, Yuna, du podcast Retour vers le Turfu.
Bonsoir.
Aujourd'hui, les cobayes du début de la fin sont toute l'équipe, à part Ludo, qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode de Maggie. C'est parti pour le début de la fin.
Superficiel et puis naturel, son climat c'est l'arc-en-ciel. Pour tes cœurs ou pour tes jardins, elle fait la loi. Petit malheur, petit chagrin, elle connaît pas.
Alors, le premier épisode de Maggie s'intitule « Rose et Marguerite, c'est le bouquet ». Diffusé sur Antenne 2 le 8 septembre 1985 et le dernier épisode, le 333e, diffusé sur France 2 le 28 novembre 1993, intitulé « Crise de mer ». Putain, qu'est-ce que c'est dur de dire 333e ! Bordel ! Au casting, on retrouve Rosy Vart, Jean-Marc Thibault, Marthe Villalonga, Sophie Arthur et Tony Letertois. À noter les génies qui ont composé et écrit les paroles du générique, Alain Wisniak, Jean-Guy Gingembre et Stéphane Barbier, chantés par Michel et Georges Costa. Merci à eux, ils auront bien niqué votre journée. Yuna, à toi de nouveau résumer le premier épisode de Maggie. Qu'est-ce qui se passe dans cette série magnifique?
Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe tout un tas de choses en 25 minutes.
C'est faux.
Tu commences pas.
Désolé, papa.
Alors, c'est un samedi matin, information importante. Il est 9h du matin, donc il y a Maggie, donc notre héroïne, qui s'affaire pour rendre l'appart tout propre, présentable. Il s'avère que c'est pour, alors, c'est pour passer un entretien, mon souvenir, pour une femme de ménage. Mmh. Voilà, donc c'est sa problématique du moment. Elle n'arrive pas à garder, elle et sa famille n'arrivent pas à garder une femme de ménage plus de quelques jours ou quelques mois, et c'est tout l'enjeu de l'épisode. Donc on introduit également son mari.
Son troisième mari.
Son troisième mari. Son... Alors celui qu'au début je pensais être son enfant, en fait c'est son petit-fils qui s'appelle Jérôme, et il y a tout un ressort humoristique à base de « il dit des gros mots dans son magnétophone ».
Un peu comme nous maintenant ce soir.
Voilà.
Merde, caca.
Également sa fille qui s'appelle Caro, Caroline.
Oui.
Qui... Voilà, ce sera un passage assez gênant où elle lui demande ce qu'elle a fait de sa soirée.
Avec des Jules.
Avec des Jules. Donc voilà, donc c'est un peu la présentation de la famille. Il y a Marguerite, qui est la nouvelle femme de ménage qui arrive. Donc, pareil.
Alors, c'est pas Marguerite, elle s'appelle Rose.
Ah, c'est pas, oui, pardon, c'est Rose.
Rose le Plouanec.
Et ça, c'est fort.
Et ça veut tout dire.
Comment est-ce que j'ai oublié cette information quand même.
J'ai ma petite fibre bretonne qui fait. Ouh
oui.
Tu te calmes, lâche le micro.
Excusez-moi.
Femme de ménage, mais qui. Comment dire, qui ne correspond pas à l'image que Marguerite pouvait s'en faire comme étant femme dans le besoin, nécessiteuse.
Putain, t'es voilà. Vachement polie, c'est bien ça.
Ouais, c'est une pauvre en fait. Tout l'épisode se résume à peu près à ça. Donc à la fin, on se dit que Rose elle va s'en aller et puis en fait, elle reste.
Alors aussi sur cette relation un peu chelou, c'est qu'il y a le rapport patron-employé qui va être un peu contrebalancé. C'est-à-dire que c'est Maggie qui va essayer de pécho en fait Rose.
C'est elle qui se vend en fait.
Voilà, c'est elle qui se vend au lieu de l'inverse en fait. Et ça c'était assez drôle. Moi j'ai trouvé ça cocasse. Et aussi, j'avais noté qu'il y a Caro qui va devoir repartir à l'école parce que son fils, son mégaphone, là où il a enregistré des conneries,
ouais.
A été activé durant la classe et ça a insulté son prof.
Ouais, ça a été sorti des gros putains de bordel de merde en cours de CM2, je trouve ça génial. Moi.
Mon gosse, dès qu'il apparaît, il est en roller et fait « Yaaah !»
Ouais, avec son Walkman.
À 9h du matin, 10h du matin, il est revenu juste pour le moment où Rose revient.
Non mais tu vois, le Cricket Kid que tu peux voir sur YouTube, bah, c'est lui. Il roule dans la maison en faisant « Yaaah !»
Je vous le refais en 85. Avoir des rollers à quatre roues, un Walkman, je dis bien un Walkman et des chemises comme ça, c'était normal. Ne jugez pas.
C'était le cool kid.
C'était le cool kid, en fait. Je veux dire, ce que tu vois maintenant, les gamins qui sont cool, bon, qu'ils ne sont pas, hein, mais c'est... En fait, le gamin, sur le coup, il est pas... Nous, il nous paraît ultra kitsch, mais contextualisé. il est genre au top du top. Je suis convaincu qu'il écoute Michael Jackson dans son Walkman et que tout va bien. Donc on se moque pas de, je sais plus son prénom parce que Yuna, tu m'as impressionné.
Jérôme.
Tu m'as impressionné. On n'a pas l'habitude d'avoir des prénoms. Ils s'appellent tous Billy normalement. Et donc Billy, non Billy, est complètement dans les codes. Ça, en fait, ça
ouais,
fait penser.
Il manque de conversation quand même. Dès qu'il rentre dans la, il fait que de le chanter en fait quand il rentre dans les pièces. Il fait gna gna gna. Enfin.
Il passe son temps à foutre le bordel en fait.
Il gna gna quoi. Ouais.
Allez, ça je dis pas sa performance d'acteur, c'est juste par rapport au look. Hein.
Ah, il après, allait pas dire des gros mots en direct quand même.
C'est une famille aisée.
Parce que le daron qui est libéral, il le fait pas peut-être.
Non mais si. Ils habitent au Vésiné, c'est une famille aisée. On sent que voilà, la maison elle est immense.
Ah bah oui, bah, de toute façon, ils s'en cachent pas. Je veux dire, il y a l'identité bourgeoise qui se fait
non,
volontairement.
Même, tu
Maggie est la bourgeoise des années 80.
Et elle le dit. En plus.
Elle le dit. On le voit surtout. Elle,
avec le fait de chercher une femme de ménage de manière générale, ça prouve aussi un petit peu la situation financière.
Ah, puis, ben moi, le verbalise d'entrée de jeu, quand ils font la vanne au début, ou quand t'as le huitième mari avec la moustache qui sort la nouvelle.
Georges.
Georges, à un moment, il dit ouais, la nouvelle femme de ménage, elle lui sort un terme. Alors, c'est pas technicienne de surface, mais c'est un autre terme, c'est ultra galvaudé. Et ils se font une espèce de vanne en mode on peut plus appeler les choses par leur nom. Voilà, c'est la petitesse des pleutres du peuple. Ont des noms un peu scientifiques qu'on va se foutre de la gueule de ça, tu vois, je veux dire, c'est... Et j'ai trouvé ça drôle, en fait, parce que je trouve que d'un point de vue de caractérisation de personnage, ils n'ont pas besoin de te sortir le livre des comptes, juste avec cet échange entre eux, tu sens effectivement que ça va se passer dans un milieu social, le madame est servie à la française.
Moi, ce qui m'a fait bizarre, c'est qu'elle dit plusieurs fois « ces gens-là », en fait, quand elle parle « ces gens-là », quoi, ça fait... Enfin, déjà,
ah, c'est méprisant.
Tu sens la fracture sociale, quoi, pauvres. Ces gens-là.
Alors, là, pour souvent, on a tous vu le premier épisode, et moi, c'est la question, en fait, je l'ai regardé aujourd'hui, premier épisode, et je sais toujours pas, mais je sais pas si c'est pris, si c'est du second degré, ou si c'est de la banalisation de l'humour des années 80, tu vois, je veux dire, on fait de la banalisation sur les immigrés, sur les pauvres machins et tout, ou si c'est justement du second degré pour se dire, genre en mode caricature. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est écrit comme ça.
Il y a une vanne là-dessus aussi d'ailleurs, parce que comme elle a quand même l'accent pied-noir et tout, et elle lui dit maintenant je suis de Grenoble.
Bah, même le fait pour moi, la vanne, elle tient quand elle se présente, bonjour, je m'appelle Rose. Rose Leploy, mec! La vanne, elle est là, je veux dire, c'est non, sans méchanceté, mais tu t'appelles Larzouza, quoi, je veux dire, c'est, enfin, t'as l'accent pied noir, machin, ce que tu veux. Je trouve que, moi, si c'est fait avec second degré, c'est finement écrit, en fait, sur le coup, parce que la vanne, elle est terrible.
Je pense sincèrement que c'est fait avec second degré, parce que c'est le genre d'émission qui est réservée pour le tout public, en fait, pour un petit peu la famille, et tu veux pas te permettre de faire un média qui est authentiquement méprisant envers la personne vers laquelle il est visé, en fait. Tu peux pas, genre, faire une émission qui vise des classes populaires, qui se fout de la gueule des classes populaires.
Non, je pense que c'est bien une comédie vaudeville bourge, en fait. Ils se foutent de la gueule des bourges, quoi. Très clairement.
Vous êtes oui, en train oui, de c'est dire... ça, ouais, c'est un peu comme les Simpsons avec les Américains, où tu les vois se foutre de la gueule des autres pays, mais...
Vous êtes en train de dire qu'après après Maître Jean-Luc Azoulay, on devrait dire Maître Jean-Guy Gingembre.
Ouais, non, il y en a trop de maîtres.
On en a un deuxième.
Non, c'est bon.
Et non, parce qu'en fait, lui n'a pas fait un Maggieverse. Voilà, Abbé a quand même une grosse histoire, hein. Il y a un plan, il y a tout, quoi. Sauf que Maggie ne l'a pas. C'est un stand-alone, comme on dirait à Hollywood. Et alors là, cette fois-ci, on va se poser un problème, et ça va être la première fois qu'on va arriver à ça, c'est que le dernier épisode n'est disponible nulle part. C'est-à-dire soit chez le tonton américain, bah, en même temps c'est logique, mais c'est surtout aussi qu'il n'y a pas le DVD. Les DVD, ils ont fait les éditions DVD, mais ils se sont arrêtés, je crois, à la milieu de saison 3 à peu près. Donc, on a impossibilité de voir ce 333e épisode Crise de mer qui s'appelait. Donc, ensemble, nous allons faire une simulation de chambre de scénariste. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, de créer cette fin à Maggie. Qu'est-ce qui pourrait bien se passer ? Qu'est-ce qui pourrait bien conclure en fait la série ?
Moi j'ai plein d'idées, mais je suis pas sûr que tu me laisses faire.
Bon, on va essayer de commencer à clôturer peut-être le destin de Jérôme, le petit-fils. Comment il pourrait finir ?
Bah déjà, le petit-fils, il aura 8 ans de plus.
Ouais.
Exactement. Donc on se base bien sur 8 ans plus tard.
Allez, pour faire le mec genre contextualisé, à l'époque, normalement, ils peuvent le faire partir genre service militaire.
Ah ouais, peut-être.
Parce que je crois que c'est pas encore...
Non, c'est encore enlevé, non ?
Ouais, c'est pas encore enlevé. Donc je dirais genre soit acteur porno, parce que ça me ferait énormément rire, mais je dirais genre j'imagine bien la fin de la série avec un départ du gamin quand même sur le coup, parce que ça pourrait être utile pour clore un petit peu, et je verrais bien soit école mais service militaire, ça pourrait être pas mal, parce que c'est ce qui se faisait à 18 piges, 18-20 ans, sans que t'aies trop le choix. Donc j'imagine un truc un peu comme ça en fait pour.
Ouais, donc c'est un départ service militaire sur le dernier épisode.
Ouais. Moi je pensais plutôt qu'il aurait lancé un mouvement genre tectonique et en fait c'est grâce à lui qu'on connaît ça.
Alors c'est en 2005.
Ouais,
ou 2004,
ouais mais il était hyper en avance quoi. Ouais. Non mais ça vient de là.
C'est en France, c'est un truc comme c'est ça. En France, c'est pas en Roumanie la tectonique.
Ouais, je valide aussi. Donc il partirait, ouais, il aurait lancé le mouvement tectonique et puis ça serait barré en mode je m'en bats les couilles, je veux service militaire.
Et ça lui échappe quoi.
Ok.
Ouais, ça devient un phénomène mondial.
On fait des extasies.
Je vois bien que dessus. Et du coup, il touche rien dessus.
Ah, c'est triste quand même. Ouais. Ça fait une fin. Hein, ça fait une fin. D'où sa mère. J'aime beaucoup.
Ouais, voilà.
Ouais, mais ça, beaucoup. C'est Jordi en fait ce que tu racontes.
Oui aussi. Ouais. Ils se retrouvent là au service militaire. Peut... Et là, ils voient qu'ils ont des points communs.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'en 2015, ils font une télé-réalité ensemble
avec Jordi? Avec Jordi?
Ouais, Jérôme Jordi.
Ouais, non, là, ça va trop loin parce que là, il faudrait 20 saisons pour développer le personnage. On va essayer de conclure, de clôturer aussi l'arc narratif de Caro, la fille monoparentale de Maggie, donc celle qui a un gosse mais pas de papa avec.
Elle est morte.
Pardon. Ouais, je...
Maintenant en fait, ça sert pas à grand chose, enfin honnêtement.
Donc elle est morte pour toi?
Oui.
Alors je pense qu'on est tous d'accord qu'elle est morte. Maintenant on va pas être d'accord sur comment. Elle
artistiquement
est
morte. Ou le personnage?
Les deux.
Les deux.
Oui, non, parce que voilà.
Bah, moi, j'aurais dit qu'elle trouve un père en fait pour Jérôme, mais qui serait quelqu'un qui dénote complètement avec la famille, donc déjà pas un bourgeois.
Donc un mélanchoniste,
un pauvre,
un plus vieux que ses parents,
Non,
c'est pas possible, on est en 85.
Un plus vieux que ses parents, ça.
Attendez, parce que vous avez une conversation divergente. C'est quoi?
Personne de couleur, mais non, on est en 85.
Ah ouais.
Que
c'est la gauche, certes, mais c'est la gauche Mitterrand.
Oui
mais
ouais.
On dit ces gens-là.
Rappelle-toi, Tata Congo.
Hein? On dit ces gens-là, donc on peut le faire quand même.
Ce sera un communiste.
Oh.
Ouais, bien. En plus, on est dans la bonne période.
Ouais, clairement.
Moi, ce qui me ferait délirer, c'est qu'elle se trouve une meuf.
Oh.
Ouais.
Oh, ça bouleverserait les codes.
Bah, à l'époque, tu sais, genre.
Ça, c'est beau, ça.
À l'époque de Philadelphia, machin et tout, parce que la fin de la série, c'est un peu dans. Là,
les début 90, ouais.
Ouais, tu sais, l'émergence sur la sida, AIDS, machin et tout. Je dirais bien, ouais, clairement, sur le coup, finir avec une femme. En tout cas, c'est quelque chose que j'aurais aimé voir quelque part.
Putain, c'est pas mal.
Alors, il m'a fait un regard désapprobateur en mode, t'auras pas titiqué resto sur un truc dégueulasse. Donc, je suis resté assez propre, sur le coup.
Non, je vous ai demandé de rester dans le ton. À la France 2 quoi.
Objectivement, s'ils avaient envie de faire passer un message pour une fin, ouais, pour ça, ça aurait été quelque chose de pour moi pertinent.
Moi, je pense qu'elle serait devenue, elle serait convertie journaliste et en fait, elle présenterait le journal de France 2 parce que autopromo, hop, juste après t'enchaînes avec la grande messe.
Pas faux.
Et paf. Voilà.
Et tu finis chez Drucker sur un canapé.
Exactement.
Yes. Oh la vie quoi.
Elle s'appelle comment cette actrice?
Je l'ai pas notée.
Drôle de prénom quand même.
Voilà. Bah ouais.
Quand ça veut pas, ça veut pas.
C'est russe.
C'est russe. Exactement.
Parce qu'il va falloir qu'on ait
pas
comparé
Sophie Arthur.
À quel point on s'est planté.
Si, Sophie Arthur. Ça, Sophie Arthur. Ouais.
Parce que je l'ai noté, moi.
Ah bien.
Tiki Resto.
Mais
tu vois, Tiki Resto, c'est comme ça que ça se gagne, Karim.
Ouais, mais je suis désolé. Moi, je sais pas faire.
Là, on va essayer de clôturer l'arc narratif de cette fois-ci. Rose Le Plouanec, donc la femme de ménage.
Comment elle finirait la fin?
Elle devient ministre.
Alors attends.
Ministre de la culture.
Parce qu'elle a quand même la gueule pour faire ministre.
Ouais. Complètement. Elle devient ministre de l'Église.
Un petit côté Simone Veil.
Alors, elle devient une espèce de Obi-Wan Kenobi pour Jérôme. Et elle se trouve une âme d'artiste, de professeur. Et finalement, elle gravit les échelons pour finir ministre de l'Éducation nationale.
Non, cohésion sociale.
Mais son fils.
Ministre de la cohésion.
Pardon. Oui, c'est son fils, il a une place importante en plus.
Son fils fait une école pour être ministre.
Oui, elle vole le diplôme de son fils. Pour...
C'est compliqué là.
Non, mais par contre, son fils monte un parti politique. Elle devient porte-étendard pour la libération des cultures, machin et tout. Et elle avoue qu'elle s'appelle Madame Sarfati et pas Madame Le Poulanec. Ça peut avoir du sens.
Putain, ouais. Non, moi, j'aurais plutôt pensé que pour lui préparer son panier repas du midi, elle serait allée à l'école et en fait, elle a commencé à prendre les cours comme ça. Elle aurait doublé son fils et elle serait devenue ministre à sa place.
Ouais, tu dis, on a eu Roselyne Bachelot, c'est pas improbable.
Mais c'était Roselyne.
C'était Roselyne.
Oh putain, bravo. Pas mal. Vous avez de l'idée, hein. C'est quand même ouf, hein. Vous avez de la créativité, les gars. Et là,
t'es prêt pour un comeback de
On a fait une école
2020.
Pour ça. Hein.
Ah ouais, non, mais je vois ça. Oui, ouais, on a des bobos artistes ici.
Ah, pas encore.
Attention.
Des hipsters gros barbus. Alors...
ça manque pas ici.
Jalouse.
Alors là, ça va être très simple à clôturer, lui. Georges Boissier, le mari.
Il s'appelle Pierre, non?
Non, Georges.
T'auras pas tenu longtemps.
Il est devenu Jean-Marie Le Pen.
Non. Ça aurait été trop cool pour être Jean-Marie Le Pen.
Ah, il est devenu de gauche.
Oh putain.
Il est devenu Dominique Strauss-Kahn.
Oh oui, c'est vrai qu'il est
libéral. Alors, il est devenu de gauche, mais
il arrête pas de dire qu'il est ultra libéral pendant tous les épisodes.
C'est vrai. Comme Sardoche.
C'est comment tuer l'ambiance. Mais moi, je pensais qu'il finirait avec une petite crise cardiaque, tu vois, pour histoire de finir un peu sur le côté tragédie.
Ouais. Très bon groupe.
Très bon groupe nantais d'ailleurs aussi.
Ouais.
Tu reprends la même scène qu'au début où il prend son croissant et il le trempe goulûment dans le pot de confiture.
Sauf que là, il le survit pas, quoi.
Ouais, le truc que personne ne fait, quoi. Tu mets tes doigts dedans, machin et tout. Et là, il meurt dedans. C'est un peu comme. Ou alors une fin, là, mon petit piton, le sens de la vie. Ouais, tu sais, quand t'as le gros, tu sais, qui prend la cerise à la fin, ça serait bien, tu vois. Et tu finis juste avec un plan sur la moustache qui reste par terre. Moi, je trouve ça super bien.
Allez, si on reste sur un pied plus réaliste en essayant de garder le côté où il devient de gauche. Est-ce qu'il ouvrirait pas une association, un truc bien chiant?
Truc de réfugié.
Ah, oh, c'est lui qui a créé la CGT.
Ouais, ça fait bien longtemps.
Ah non, un truc bien niqué.
La CGT, ouais. C'est depuis que la France a été créée, que la CGT là.
Oh merde, c'est chiant.
Ah ouais, genre un mec qui va voir les prisonniers, tu sais, genre une fois par mois pour leur parler, tu sais, les gars qui sont dans le couloir de la mort, qui a personne qui leur parler.
Mieux.
Et...
mieux, ça va retomber sur une musique que je vais vous passer tout à l'heure, mais il ferait genre une. Il ouvrirait, en fait, il ferait. Tiens, je vais rassembler des artistes et ils vont chanter pour l'Éthiopie.
Ah, il fait les enfoirés.
Non, c'est pas les enfoirés, non, c'est
sans argent.
Je sais plus c'est quoi.
Les salauds.
C'est Michael Jackson.
Les gros bâtards.
Oh.
Ah, il ferait un groupe qui s'appellerait Les Gros Bâtards et qui chanterait de la merde pour sauver l'Ethiopie, en fait.
Et j'ai la suite. 15 ans plus tard, il produit les Kids United.
Ok, vendu, j'achète.
Merci.
J'achète. Et Maggie, cette fois-ci, pour clôturer Maggie. Maggie, la bourgeoise, le personnage principal de toute cette série.
Fille avec un viager.
elle meurt dans le viager, le film.
C'est ça.
Elle passe par le balcon.
Non, elle fait un viager et elle en enterre 4. Elle meurt à 102 ans. Après avoir endetté 4 couples,
bien.
Juste avant ça.
Ouais.
Et ensuite, elle vit au crochet. Non, elle est trop bourgeoise pour vivre au crochet de quelqu'un. Non, elle a l'air d'être. C'est difficile, en fait, d'être méchant avec elle, parce que c'est un personnage qui a l'air fort.
Elle est forte, je pense.
Ouais.
Moi, je pense qu'elle veut vivre sa passion et elle finira peintre au Cap d'Agde.
Ouais, non, mais sans déconner, ouais, à poil, avec des jeunes Brésiliens en train de se faire étrangler à 90 piges en buvant de
rococo. Où elle vit la matière, elle devient la matière.
Ouais, je suis assez chaud.
Et elle la transpose sur la toile et, avec plusieurs couches. Hein, et ça devient une œuvre.
Donc on finirait bien sur Rose, en fait, qui.
Au Cap d'Agde ?
Au Cap d'Agde, oui. Qui fait de l'art et qui se fait étrangler par une armée de Brésiliens.
Moi, je suis chaud.
En version réaliste, hein, évidemment.
Oui, faut bien
en version France.
Faut bien que l'inspiration vienne de quelque part.
En version service public, hein, bien entendu.
Évidemment.
Hein. Évidemment. Tout public.
En version Netflix.
Tous les Brésiliens auront leur papier, pas de problème.
Ouais, évidemment. Bah, il reste quoi de l'appartement?
Oui.
Ah. Le Vésilet. L'appartement du Vésilet, ouais.
La maison, oui. La maison devient peut-être une coopérative.
Quelque chose. Ils vendent du pinard ouais, ultra bio avec des hippies qui font leur propre lait.
Il y a bien une cave dans cette maison. Quand
bien sûr,
mais évidemment.
Bien sûr, avec du compost et tout.
Ou alors ça devient un grand site urbex et t'as le grand JD qui passe dedans parce que c'est hanté.
Les vidéos.
J'étais sur le site d'une ancienne famille française.
Dans le Vésilet.
Dans le Vésilet. Apparemment, le père était libéral, il s'est étouffé avec un croissant.
Ah, tu imagines la même émission, genre reprise par la télévision, comme ça se passe maintenant, présentée par Stéphane Bern.
Ici, secret des idiotes.
Oh non.
Ici, Maggie serait morte en essayant de sauver son mari en train de s'étouffer avec un chocolatine.
Ah, mais sans déconner, hein, tout fait des revivals dans le jeu vidéo, les films, ensuite. Faut qu'on fasse un revival Maggie et qu'on invente une fin.
Bah, c'est ce qu'on est en train de faire là.
Non, mais faut qu'on le filme, faut qu'on le fasse.
Déjà, ouais, non, faut du budget là.
Déjà, ça relancerait le brushing.
Ouf.
Enfin, ça relancerait le brushing et je suis sûr que ça tirait très bien.
Ah ouais, mais tellement.
Parce que
carrément Maggie.
Ah. Carrément Maggie.
Putain, ah, mais carrément. Okay. Ah ouais, non, prendre un air de bourgeoise et vous regarder.
Ludo en Jérôme.
Quoi ?
Ah oui, c'est
Ludo.
Ouais, what
the. Putain de bordel de merde. Ça va, j'ai mon texte. Pour 8 saisons.
C'est écrit dans tes yeux. Quand tu parles de ta vie. C'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux. Rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton corps qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Je veux te voir changer. Yeah.
alors, Ludo, en vrai.
Oh putain. Fallait bien que ça arrive une fois dans la saison.
Oh fuck.
Alors, qu'est-ce que raconte la série avant que je t'étouffe avec ta bière?
C'est une série qui est adaptée d'une série britannique qui s'appelait Maud.
Ouais.
Même principe, hein, avec une femme comme ça, une quinca qui lui arrive plein de choses chez elle. Enfin bref, avec un seul décor unique. Hein, donc, on a cette grande maison avec ce salon. Il y a un peu de, petit bout de cuisine aussi, je crois, normalement. Ouais. Et donc, il n'y a que ce décor-là. En gros, je crois que j'étais tombé aussi sur un épisode où il y avait une salle de sport avec une chambre, etc. Bon, après, ça s'est un petit peu développé. Mais enfin, l'idée, c'est d'avoir un décor unique à la Madame et Servie.
Ouais,
en gros,
alors Maud, j'ai regardé et je vais te couper, c'est américain.
C'est américain.
C'est américain, ça passait sur CBS.
C'est ce que j'ai dit, exactement.
Fin 70. Mais t'inquiète. Hein,
non, c'est ce que j'ai dit. Et
britannique. Je t'ai à l'œil.
Britannique des États-Unis. je ne me démonte plus, j'en ai marre au bout de 6 épisodes.
8.
Voilà, donc on a Rosie Vart, hein, qui est une grande comédienne de théâtre, de cinéma, etc. Mm-hmm. Moi que j'ai adoré dans Le Viager, ça c'est perso. On a Jean-Marc Thibault aussi, hein, très connu, qui était à l'époque en duo avec Ça ne revient pas.
Ah,
super,
ouais,
sympa
lui. Bien, lui.
Merci beaucoup. on le rajoutera, on incrustera. Il y a Marthe Villalonga, super connu, oui. Sophie Arthur, qui n'a pas donné suite, enfin en tout cas à ma connaissance. Et puis le gamin, je sais plus. Bref, c'était sur France 2, Antenne 2 et après France 2. Il y a eu 8 saisons de 85 à 93.
Ça passait.
Et ça passait le dimanche soir. Et c'était un peu le rendez-vous familial.
C'était quel horaire? Genre comme Benny Hill, sa cartoon?
C'est le même horaire que sa cartoon.
C'était pas 19h-20h?
Bah, à peu près, sa cartoon.
Ouais, c'était avant. Ah oui, mais je suis sa cartoon, c'est pas moi. Bref, c'est une série qui raconte donc la vie de cette quinca. Il lui arrive des trucs, des biens, des trucs pas bien. Bref, il lui arrive toujours des trucs, on sait pas pourquoi. j'essaie de vraiment un résumé, mais béton. Hein. On a oublié de dire que le magasin de Georges s'appelait Boissier Maxi Discount.
Oui,
je pense que c'est un détail important.
Merci.
Voilà,
merci.
Ça c'est fait, je referme la parenthèse. Et deuxièmement, ils habitent le Vésiné avec un Z, pour pas le confondre avec le Vésiné avec un S qui existe vraiment.
Oui.
Et là, je crois que tout le monde s'est fait avoir.
Ouais, ça a été un petit peu le moment.
Personne n'a capté que c'était le Vésiné, voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il y a eu des pèlerinages à Vésiné pour...
Alors, je n'y étais pas.
Alors déjà, la question que je suis en train de me poser,
les soirs de pleine nuit,
est-ce que des gens connaissent le Vésiné?
Oui.
Oui, oui, tout le monde.
Oui.
Ah, tout le monde. Oui. Ouais. Merci de me regarder comme ça.
De rien.
Non.
Mais sérieux,
c'est en dehors de la Bretagne, donc effectivement, il faut aller un petit peu plus loin. Mais ça existe.
Merci.
Je t'en prie. Tu as senti le sarcasme?
J'ai senti le mépris surtout.
Une pointe. Ah, il y avait un petit peu aussi, il y avait une pointe derrière, juste pour assaisonner. Sinon, on s'est fait plaisir pendant ces années-là parce qu'en fait, c'était le rendez-vous, la sitcom du moment. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Des gens connus, des gens qui ne seront plus connus après et des gens qu'on a connus un instant. J'aimerais qu'on leur porte hommage. Comme, comment s'appelle? Philippe Castelli.
D'accord.
Offray.
Vous vous souvenez pas de lui, grosse tête?
Moi, je me souviens. Ouais,
d'accord, ok. Il y avait Jacques Chancel, Jacques Chazot, okay. Il y a beaucoup de Jacques, c'est l'époque des Jacques. Michel Galabru, Henri Guibé, Gérard Rolls.
Oh.
Grand acteur, on s'en souvient tous.
Oui.
Patrice Lafont, voilà, Francis Perrin, Roger Zabel.
Tous les animateurs de France 2.
En fait, oui, en gros, il y avait pas mal de gens qui étaient connus. Voilà, non, moi j'étais plutôt sur les couvertures de Télé 7 jours.
Aussi.
Voilà, donc aussi. Si t'as fait une couverture de Télé 7 jours, on va t'offrir un rôle dans
Maggie.
Voilà, c'est ça. Ou tu as un rôle chez Maggie, tu auras Télé 7 jours.
Je vois tellement la tête de Maggie sur un Télé Z. Ouais, putain, ça marche bien. Et tous ses copains aussi, ouais, c'est.
Ah, mais tu visualises très bien.
Mais
ouais,
c'est pour ça que c'est un format A4, parce qu'avec le brushing, il faut que ça puisse rentrer.
Ouais. Que... Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est maintenant en format A4.
Et pour ça que c'est en format A4.
Grâce aux épaulettes.
C'est le standard qui a été adopté. Le standard qui a été adopté.
D'accord.
C'est le standard brushing Rosie Vart.
Mais en fait, c'est
du grand n'importe quoi.
C'est le prédécesseur de Friends, en fait, avec le nombre de guest stars.
Oui, mais c'est que des guests, en fait, puisque Friends, il y a 6 acteurs principaux. Là, en fait, il n'y en a que 3. 2, moi je dirais 2. Je dirais Rosie Vart et Marthe Villalonga. En fait, ça se joue vraiment avec elles deux, je trouve.
Oui.
Et donc, j'en pensais la dernière fois, parce qu'on en a un petit peu parlé, parce qu'on fait des pré-briefings, n'est-ce pas?
Bien sûr.
C'était de se dire Marthe Villalonga, le personnage de Marthe Villalonga qui fait donc ces gens-là, la femme de ménage, qui, dès le premier épisode, arrive comme une furie et impose sa façon d'être, sa façon de penser. Personne ne bronche. Et en fait, est-ce que c'est pas elle le rôle principal? Parce que c'est censé être Maggie Rosie Vart. Mais tous les ressorts comiques
sont au même niveau,
sont complémentaires.
Ouais. Ouais, mais oui, il y a une espèce de clown triste et puis machin bidule qui se renvoie la balle. Mais j'ai quand même trouvé que Marthe Villalonga avait tous les ressorts comiques. Déjà, la façon de le jouer, etc., etc. Et des fois, j'ai trouvé que Rosie Vart, c'était elle qui donnait la réplique pour pouvoir, pour que Marthe Villalonga puisse.
Il y a un côté un peu de Cone Garcia entre les deux, c'est-à-dire où le plus drôle des deux, c'est pas celui qui écrit, c'est celui qui fait. Genre je fais la comparaison parce que beaucoup regardé à cette époque-là du Par ailleurs et de Coné Garcia, et Garcia n'écrivait rien, mais du duo, c'est celui qui était le plus drôle. Et j'ai l'impression que c'est un peu la même relation entre Rosy Vart et Mardi Longa, c'est-à-dire que Rosy Vart, elle tient la série, c'est à son nom, machin et tout, c'est elle qui va balancer tout, punch, insignia, mais par contre, le ressort comique, et la série étant comique, le ressort principal, moi je suis assez d'accord en ayant lu que le premier épisode, et connaissant un peu Mardi Longa, ouais, pour moi, ça m'étonnerait pas. Alors, qu'elle vole la vedette, en fait.
Bah, c'est Madame Loyal, en fait, Maggie, j'ai l'impression. Parce ouais. qu'elle est là, voilà, c'est l'atelier, tatatin, et après, non, tu l'aimes pas.
Et moi, je retourne vos argumentaires.
Regardez la série, et en fait, Maggie est le personnage principal, pourquoi ? Parce que Rose va en fait être l'élément perturbateur à chaque épisode, et c'est elle qui va faire avancer Maggie en fait.
Et c'est elle l'élément perturbateur, ou c'est Maggie l'élément perturbateur en interaction
avec Rose ? Généralement c'est Rose ou le mari qui va faire une connerie et faire une aventure qui va faire à la fin que Maggie revienne à Maggie quoi.
Mais en fin de compte, tu dis là où tu te marres le plus, c'est quand Marthe Villalonga elle sort une connerie.
Bien sûr, mais ça ne fait pas l'élément principal.
J'ai bien compris. Je me pose la question quand même si le à chaque fois qu'il y a un truc sympa dans la série, c'est quand même pas autour de Marthe Villalonga.
Bah, évidemment, c'est pas elle. J'ai l'impression que qu'il y a un côté un peu comme dans Madame et Servie, en fait, où il y a en fait pas. Enfin, tout le monde va te dire d'un côté qu'il y a un héros désigné, un qui va pencher pour Tony Micheli, l'autre pour Angela, si je me trompe pas, ou je sais plus.
Angela Bauer.
Ouais, merci. Et en fait, l'un sans l'autre sont rien. C'est un peu le syndrome Fran Fine, Maxwell Sheffield et ainsi de suite. Je pense en fait, c'est plus par accrédit de cœur qu'on va déterminer qui a pris le dessus un peu de cette importance dans la série. Moi, je m'attacherai plus directement au personnage avec le ressort comique, parce que moi, c'est la punchline dans ce genre de série qui va me faire m'attacher à un personnage. Mais sans, en l'occurrence, la Maggie, l'autre personnage n'a pas de sens, en fait. Donc, je sais pas, en fait, si on peut vraiment trancher ou pas, en fait, sur la question, tu vois.
Comme Mona dans Madame et Servie. C'est exactement. L'élément perturbateur, c'est la mère d'Angela Bauer.
Bah, Mona, c'est un peu le daron, c'est un peu moustache, croissant, confiture dans Maggie. Et je suis désolé.
Il te parle avec des mots-clés, c'est trop bien.
Ouais,
ça,
Il montre en disant moustache alors que.
Ça n'a pas de moustache.
Non, je suis un berbe.
T'as une petite moustache, elle est mignonne.
Ouais, donc bah, je sais pas en fait si on peut vraiment trancher s'il y a un personnage qui a pris plus. Moi, je dirais oui par intention personnelle, mais en fait, in real, je pense que c'est propre à chacun.
Et sinon, moi, j'ai une contre-question. Ouais. Est-ce qu'on se prendrait pas trop la tête pour Maggie là finalement?
Oui, complètement.
On a fait ça pour les filles d'à côté, on a fait ça pour le Cosby Show, mec. Tu t'attends à quoi dans
cette émission? Mais Cosby Show, encore, il y avait un peu plus d'intention d'écriture. Tu vois, mec, ça doit être un sac à foutre, au moins, il avait des intentions artistiques.
C'est qui pour juger le travail de Jean-Guy?
Franchement, moi, dans Maggie...
Et je comprends pas, quoi.
Tu sais que moi, dans le premier épisode de Maggie, sur la forme, je veux pas trop tant critiquer parce que les acteurs sont des vrais comédiens. Donc, ce qu'ils font, même si j'aime pas, ils le font assez bien. Au premier épisode, sur le fond, je trouve que ça soulève 20 milliards de questions qui étaient complètement d'actualité, en fait, déjà. Le travail des autres, le travail des immigrés, la place de la société, la considération de chacun par rapport à un nom, à une tâche, ainsi de suite. J'ai trouvé, alors c'est peut-être moi qui fais de l'analyse synapsien, qui se branle trop le cerveau, je dis pas, mais j'ai trouvé l'épisode... Oui. D'accord.
Pardon.
Oui, mais j'ai aimé
Evangelion, rhétorique. Moi. C'était rhétorique, les gars.
C'est sorti.
Non, enfin, je sais pas, il y a que moi qui ai senti ça ou vous avez vu trouvé ça comme un truc très lourd.
Non, je suis plutôt d'accord.
Non, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi le rapport de la place de la femme dans le couple aussi.
C'est ça, je veux dire, c'est une daronne, quoi. Elle attrape toute la maison. Moi, ah, bah, vos gueules, quoi.
Oui, oui, non, mais exactement.
Justement, ça, je vois ça un petit peu comme une sorte de forcer un petit peu le caractère fort de la femme, alors que finalement.
Finalement, Captain Marvel a tout fait.
Oui,
complètement. Ouais, d'accord.
Ouais, tu vois, genre,
vraiment que j'arrête cette émission.
La force à devenir une femme forte, alors qu'en soi, elle garde des valeurs primaires de la femme avec rester à la maison, s'occuper de la vaisselle, le ménage, tout ça, tu vois. Enfin, t'as genre des valeurs qui sont en soi très conservateurs et qui montrent pas vraiment une image forte de la femme. C'est juste au niveau de son caractère où elle montre qu'elle a un caractère un petit peu autoritaire par rapport au reste de la famille, mais je vois pas ça vraiment comme montrer une femme forte à l'écran, tu vois.
Ok. Et après, c'est pas forcément non plus une originalité parce qu'ils ont tout chopé à mode. Hein. Mode, pareil, dans la série américaine. Là où Maggie a révolutionné le game, et oui, ça a révolutionné le game, c'est que c'est la première série drôle. Française tournée comme une sitcom, en fait.
Okay.
Pourquoi ils se sont inspirés de Maud ? C'est surtout que Maud, quand c'est arrivé aux États-Unis, début 80, et en fait, ça a été une révolution du format sitcom aux États-Unis. Parce que habituellement, en fait, les séries américaines, sitcom, enfin un petit peu familial, tout ça, ça se déroulait soit dans un contexte ancien, ou même carrément dans le western, quoi. Genre Ma petite maison à prairie ou les conneries dans le genre. Et là, en fait, ils ont essayé de détourner le code en faisant, bah, on va faire ça directement dans un contexte urbain, moderne, avec des vrais faits de société actuels. Donc, aux États-Unis à l'époque, c'était encore le racisme, la place de la femme.
Moi, je te rassure, ça l'est encore.
Oui. Bah, quand tu regardes encore Watchmen en 2019, ça parle encore de ça, finalement, aussi.
Et pourtant, 35 ans sont passés.
Et pourtant, mais oui, mais le monde ne veut pas changer. Ouais. Le monde ne veut pas
changer. Parce qu'on veut changer le monde.
Puis ça a déconstruit en fait les relations familiales, en soutenant de la gueule les codes du romantisme. J'avais regardé quelques épisodes de Maud, hein, et c'est beaucoup Maggie, mais Maggie avec les codes américains. Et en plus, il y a le personnage, l'ami du mari, qui est joué par un Britannique. Donc en plus, ils se foutent de la gueule des Britanniques, ils sont un peu péteux de base, et c'est assez drôle, c'est assez dynamique. Par contre, c'est vrai que là, la différence avec Maggie et Maud, Maggie a le côté quand même beaucoup plus énervé. C'est-à-dire qu'elle, elle va pas hésiter à vraiment, vraiment se foutre de la gueule de son mari, mais très, très violemment, enfin assez méchamment. Alors que Maud, elle, va plutôt être plus fine, en fait, dans ses jeux de mots. Bah, l'américaine, quoi. Ça va être plutôt des tournures de phrases qui vont faire que ça va être drôle, mais Maggie est beaucoup plus directe dans la version française. Et ça parle aussi beaucoup des divorces, le plein le cul des gosses, enfin, il y a pas mal de choses. Ça, qui a été beaucoup plus accentué dans Maggie, d'ailleurs. Comme je disais, c'est une femme aussi, ils ont décidé, dans la version française, de donner qu'elle ouvre un peu plus sa gueule, plus indépendante. On le voit, elle a trois maris, enfin elle a eu son troisième mari, donc c'est une femme qui a de l'expérience et qui se laisse pas faire. Et c'est ça aussi qui va être le contrebalancement en fait qu'ils vont faire, c'est de mettre bah, justement une femme de ménage, elle aussi, dans sa condition. C'est une femme de ménage, bah, tu penses que c'est, bon, comme on disait tout à l'heure, ça va être quelqu'un de très, comment dire, socialement en détresse, quoi. Et là, en fait, ils mettent quelqu'un qui a de la race, quoi, et qui se laisse pas bouffer, quoi. Et c'est ça, en fait, qui va jouer beaucoup plus que dans Maud, justement, où ça va être plus la femme et le mari. Là, ça va être carrément ce qu'on avait dit, justement, le contrebalancement entre Maggie et la femme de ménage. Et c'est ça aussi qui est vraiment intéressant. Et on n'a pas parlé des audiences, mais c'était quand même, en moyenne, 7 millions de téléspectateurs.
Ah, c'est moyenne. Ouf, quand même. Ah, bah, c'était le truc, hein. Enfin,
ouais, c'était le dimanche, tous devant Maggie, quoi. Et ce qui fait que, ce qui est assez impressionnant, parce que ça, on n'en a pas dit, mais c'est que Ludo, t'étais le seul à connaître la série, je crois. Peut-être toi, Karim, un petit
moi,
peu.
Moi, je connaissais de nom, j'avais vu un épisode.
Tu m'en as parlé, je ne connaissais même pas du tout. Et ouais, en fait, finalement, en faisant des recherches, je fais « Ah ouais, d'accord, on m'a caché ça
ouais, !» Oui, tu te rends compte.
C'est vrai que à notre époque, c'est pas une série qui a traversé le temps. Hein. À l'heure actuelle, le nom de Maggie, de manière générale, tu donnes ça à la nouvelle génération, ils ont du mal. Tu vois, n'importe quelle série un peu ancienne, qui était dans les 90-80, peut être connue, mais Maggie...
Par contre, les gosses qui ont grandi dans la génération 80-90, il te dit Maggie pour eux c'est le Vietnam. C'est le générique de merde, c'est tout l'enfer de ce que regardaient les parents.
Et pour post 90, c'est les Simpsons.
Ouais, ouais.
Bah pour redire ce que tu disais, quand j'ai regardé le premier épisode, la dernière fois, quand on a décidé d'en parler, on en parlait avec Ludo et ça me parlait. Je me disais, putain, ça me parle, je revoyais vite fait Bardi la Longa, je revoyais un peu le pitch, mais c'était encore flou. Quand j'ai revu le premier épisode, j'ai tout ce que j'ai vécu à cause de ça qui est remonté. Et moi, c'est un peu le discours inverse. Moi, chez moi, on regardait pas Maggie parce que ma mère voulait pas qu'on regarde Maggie parce que c'était la représentation qu'elle voulait pas. Elle voyait ça comme un truc de bourgeois, galvaudé, ainsi de suite. Et nous, on était genre, si tu regardes Maggie, c'est que t'es un beauf. Si t'es un beauf, faut qu'on te brûle. S'il faut qu'on te brûle, bah, faut qu'on te brûle.
Non, mais je suis d'accord. Hein, d'une certaine manière, je pense que c'était une de la classe populaire qui regardait.
Et il y avait, alors après, c'est peut-être des souvenirs d'enfant, mais effectivement, pour être rejoint, il y avait vraiment cette scission, genre, du dimanche soir qui regardait quoi. Il y avait ceux qui regardaient Sagarto, il y avait ceux qui regardaient Maggie, il y avait ceux qui regardaient Benny Hill. Et moi, ça me donnait genre des débats dans les cours d'école. Ça donnait des débats entre les parents, en fait. Je veux dire, c'est comme quoi, parce que Maggie se voulait, en fait, être la série qui avait ce côté un peu sociétal, et il y avait tout le reste en fait, et c'est marrant parce que jusqu'où tu en parles comme ça, mais ouais, ça crée, enfin moi je sais pas si toi Ludo tu l'as vécu comme ça, mais il y avait vraiment ces entités de clan en fait, dont Maggie en faisait partie pendant 8 ans quoi.
Ouais, parce qu'en fait elle avait expliqué qu'elle avait souffert, enfin qu'elle avait payé de ce racisme anti-sitcom, parce qu'en fait après elle avait même renégocié ses contrats et tout à la hausse, parce qu'elle disait à cause ou grâce, mais en tout cas avec Maggie je suis obligée de dire non à des projets qu'on me propose, parce que Rosie Vart elle avait du level quand même, elle était hyper cotée, donc elle a négocié à fond pour compenser ces manques là petit à petit, on a commencé à lui proposer moins de trucs. Et à la fin, bah, un petit peu comme les séries AB, c'est-à-dire qu'elle n'était pas blacklistée, mais c'était catégorisée comme sitcom, donc terminé quoi. Ouais, 8 ans, c'est long.
Maggie, en fait,
8 ans.
Jamais faire quoi que
et la fin de Maggie, elle l'a annoncé, elle qui l'a annoncé à la télévision dans Stade 2, ou un truc comme ça,
avant
Stade 2. Et en fait, dès le lendemain, en gros, il remplaçait la série par Stade 2, enfin une émission de sport. Et c'est elle-même qui l'a annoncé.
C'était une annonce assez
brute.
Bah, ouais, brute, mais ça commençait déjà à mettre des rodifs, des épisodes.
Okay.
Alors, c'était généralement du frais, généralement. Et là, effectivement, c'est elle qui l'a annoncé tu l'as en direct à la télé, tu vois ça. Oui, bonjour, c'est Rose Bart. Bon, on s'est pas annoncé que c'est fini.
En parlant de rediff, c'est une série. J'ai l'impression qu'elle a jamais été rediffusée, cette série.
Si, mais sur des chaînes, si, sur des petites chaînes, sur des petites chaînes, parce que ça coûte pas cher, je pense.
Non, TV Brest, quoi.
Peut-être aussi plus tard le soir.
Non, une chaîne Kato, RTO, je crois.
Oui, si, Kato TV.
Ouais, Kato TV.
Kato TV. Si, si.
Ouais, RTO, je te balance ça à l'arrache. Kato TV.
Avec Philippe Devilliers.
Ou alors c'est pas diffusé, genre, voilà, ouais. Très tard le soir, tu vois, genre vers minuit.
Je crois que c'est Christine Boutin à la speakerine. Qui annonce les programmes.
Clôturer cette petite partie, j'avais décidé de faire un jeu. Enfin, on avait tous décidé, pardon, de faire un jeu. Je ne prends pas que les décisions tout seul. Et faire un petit jeu, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas noté aussi l'humour des créateurs. Pour leur titre des épisodes. Alors il y a quand même 333 épisodes où c'est chacun un titre différent et c'est assez impressionnant comment ils écrivent les titres. Alors il y a des titres très drôles, comme des titres de merde, souvent des jeux de mots à la con. C'est l'heure du
Géopardie.
Vous allez essayer de deviner, très simple, faux titre ou vrai titre.
Ok, c'est bon ça. Croire au Burger Quiz.
Non, c'est un vrai.
Attends, je peux pas balancer.
Un vrai.
Laisse-moi balancer.
Non.
Si.
Ok.
Merci.
Un vrai.
De la cuite dans les idées.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Yes. Ah,
c'est bon ça.
Docteur K.O.
Faux.
Ah, je dirais que c'est un faux ça. Ouais, je dirais faux aussi.
C'est un vrai.
Oh.
Ah, c'était bon.
Troisième, la fureur de vendre.
Oui.
Oui, c'est un libéral.
Oui, c'est clair.
C'est vrai. C'est libéral, ça. C'est libéral. C'est libéral. Bah, forcément, c'est vrai. Et effectivement, c'était vrai. Quatrième, donner sa langue aux poules.
Je vais dire que c'est pas vrai ce qu'il vient de dire.
C'est trop simple.
Ça sent le luxe.
Ah, comment vous me connaissez. bien joué. Cinquième titre. Ok sur place.
Oh, vrai.
Ouais, c'est tellement naze que c'est forcément vrai.
Ouais. Il est triste.
Non, t'as pas assez d'imagination pour imaginer ça.
T'en dirais un peu ton beau-père bourré, tu sais, qui te balance une mode. Ok sur place. Comment t'as su? Désolé. Ouais, effectivement, c'est ok sur place. Et c'est un vrai titre. Fenêtre sans cour.
Hey, j'espère qu'il est vrai parce que celui-là il peut être sympa.
Et s'il est pas vrai, t'es doué quand même.
Ouais.
Dans tous les cas,
c'est
une belle référence à Hitchcock. Hein,
ouais, c'est pas mal.
Il essaie de nous le vendre en plus, l'enfoiré.
Ouais, attends.
J'ai tellement réfléchi sur
celui-là. Alors, Fabien Olicard m'a appris à lire dans le genre.
Bon, allez, moi je dis non, je me lance.
Ouais, je suis Ludo.
Ouais, c'était faux, c'est un vrai.
Trop de talent, mec. On l'a senti.
C'est un vrai. C'est fenêtre sans cour. C'est vraiment Barbier qui l'a dit. Et gingembre. Ils ont fait, allez, fenêtre sur cour.
En même temps, tu t'attends à quoi, le mec s'appelle Gingembre? Il était prêt à faire des jeux de mots, ce mec-là. Je veux dire,
il est né pour ça. Born to make jeux de mots, you know.
Moi, je l'appelle Luc Gingembre maintenant.
Avant-dernier. La folie des lenteurs.
J'ai cru que c'était la folie des lentilles.
Non, ça, c'est faux.
Moi, j'irais faux.
Ça, c'est un faux.
Ouais, faux.
Les deux.
Chier.
Oui, je l'ai inventé, celui-là.
Chier.
La folie des lenteurs. C'est un faux, bien entendu, c'était inventé par moi. Fatigué.
Il était quelle heure,
il était 14h, j'avais envie de dormir, mais j'étais au
boulot.
dernier titre. Échec et bat.
Celui-là, je l'ai vu, je crois.
Et bat, ouais. Comme
je crois bat, et bat, genre
bat de baseball.
Non, je l'ai
bat
vu, égale.
Oui, c'est tellement naze que ça peut que être ça.
Et c'est un vrai titre, effectivement.
Oui, oui.
Bien joué, bravo.
Vive la nullité. I'll be there for you.
Bah, je voulais parler surtout des deux grosses actrices qu'il y a, qui sont bien évidemment Marthe Villalonga et Rosie Vart. Respect à ces deux femmes, parce qu'elles ont des carrières qui sont juste mais hallucinantes. J'ai pas passé non plus énormément de temps, mais elles ont fait un nombre de trucs qui est juste taré. Pour continuer dans les calculs que j'adore faire qui servent à rien, j'ai juste essayé de compter ce qu'avait fait Marthe Villalonga avant de la présenter. J'ai compté plus de 60 films, 30 téléfilms, il y avait plus de 80 pièces de théâtre, et sans compter toutes les apparitions qu'elle fait dans les séries, les courts-métrages et les doublages. Genre, la meuf, elle a fait plus de 200 rôles différents dans sa carrière. Donc Marthe Villalonga, je vais commencer par elle, c'est celle qu'on a un petit peu moins. Alors c'est une actrice, je vais volontairement appuyer là-dessus, c'est une actrice pied noir. Je le dis parce qu'elle en fait vraiment sa carte de visite, mais dans le bon sens du terme, en fait, sur le coup. C'est-à-dire qu'elle base tout son humour tout là-dessus, et personnellement je suis ultra client de ça. Elle a un côté un peu Madame Sarfati que je trouve assez extraordinaire. Et deuxième chose que je trouve extraordinaire, c'est que c'est une femme qui ne vieillit plus. Elle était vieille dans Maggie, et encore maintenant, la dernière fois que j'ai vu, dans Kaamelott il y a 3 ans, il y a 18 ans,
elle joue dans Kaamelott,
hein. Elle fait des guests. Elle a aussi joué dans Scène de ménage, où elle joue la mère de José, où elle joue encore une rôle de mère pied noir ultra protectrice. Elle a fait, il y a le concurrent de Scène de ménage sur TF1, donc on va appeler ça Scène de pas ménage, mais ils ont Nos chers voisins, une connerie comme
c'est
ça.
C'est le TF1,
Nos chers voisins. Ouais, c'est ça, c'est le copier-coller. Pareil, elle joue une maman pied noir là-dedans. Donc Marthe Villalonga, voilà. Donc j'ai pas grand chose de ouf à dire sur cette dame-là, à part qu'elle a fait des milliards et des milliards de choses, et qu'en fait, elle est comme Bryan Cranston, elle est partout. C'est-à-dire, c'est qu'on aurait pu faire un jeu comme j'avais fait avec Bryan Cranston, c'est-à-dire citer des films où elle était ou elle était pas. Quand j'ai vu qu'elle avait fait plus de 60 films, j'ai arrêté parce que mes yeux pleuraient et j'avais les yeux secs. Donc j'ai arrêté. Après, elle est capable de tout faire, et juste un film où je l'avais vu, elle m'avait beaucoup fait rire. Je n'ai pas vu ce film. Elle joue dans Calmos, un film de Bertrand Blier.
Ah putain, il est trop bien ce film.
Ce film, alors mesdames, regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Bon, vous m'étranglerez sûrement après avoir vu ce film, parce que c'est certainement le film le plus misogyne et le plus drôle de tous les temps. Et elle y joue le seul personnage qui arrive à tenir tête. Je vous fais le pitch, c'est Calmos. Calmos est un monde relativement réel où les femmes ont vraiment pris le pouvoir au quotidien, mais vraiment au quotidien. Et les hommes sont gavés. Et un jour, il y a une bande de bons potes qui casse et qui décide d'aller se bourrer la gueule avec un curé, du vin rouge et d'insulter les femmes. C'est écrit avec une finesse qui est dégueulasse, on dirait des commentateurs sportifs de la misogynie.
C'est Bertrand Blier.
Franchement, je vous le conseille. Et mesdemoiselles, regardez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé avant de me gifler. C'est très drôle, elle apparaît là-dedans. Elle a aussi fait 3 hommes et un couffin, un gros film qu'on connaît tous. Et sa dernière apparition qui a été vachement bien avec Erim Keramzi, elle a fait les Dalton. Comme quoi, faut bien payer ses factures aussi. Donc ça, c'était vraiment sur Marthe Villalonga. J'ai pas grand-chose de plus à dire qu'elle est ultra active. J'ai passé un peu à Rosie Vart. Alors, Rosie Vart, c'est le même constat, en beaucoup plus hallucinant. Sa carrière, elle est juste, mais j'ai même pas essayé de compter. Elle a tout fait. Elle a fait du cinéma. Elle a fait des années 50 jusqu'aux années 90, début 2000, elle a fait des choses. Et elle a eu, pareil, plus de 200 à 300 rôles différents. Elle a même fait des bouquins audio pour des gamins en chantant les contes, enfin en lisant les contes de Perrault, les contes de Grimm. Enfin, c'est une femme qui est ultra active. Là, elle, je vais déborder un tout petit peu sur sa vie perso. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. Alors, à la base, pas drôle, c'est que c'est une actrice quand même assez engagée à la base. Pourquoi ? Parce qu'elle est arménienne et que c'est une immigrée arménienne. Alors, le truc qui est quand même marrant, c'est qu'on dit tous que Rosie Vart est morte à 88 ans, mais en fait, on n'en sait rien, mais elle ne connaissait pas son...
Mais non, oui, effectivement, ouais.
Et alors, pourquoi je posais des questions aussi sur le ton de la série ? C'était par rapport aussi au fait que Rosie Vart était escalier, donc elle était énormément engagée sur plein de causes. Et dernière chose, sur le coup, qui va marquer, alors, ce n'est pas tellement pour elle, parce que plein long, c'est qu'elle a été en 1998, c'est ça, 98, elle a été médaillée chevalier de la Légion d'honneur. Donc, elle a eu la Légion d'honneur que j'ai trouvé ça assez ouf quand même, parce que c'est quand même un truc vachement vénère, jusqu'à ce qu'on rende compte que la Légion d'honneur, c'était une belle arnaque, et qu'à l'heure actuelle, il y avait plus de 94 000 personnes qui étaient décorées de la Légion d'honneur en France.
Ouais, mais ça reste quand même une distinction pas mal.
Ouais, il y a un mandalire qui...
Ah merde, donc c'est vraiment de la merde quand même. Hein.
Qui est chevalier de la Légion d'honneur, voilà. Donc Rosie Vart, pour finir là-dessus, gros respect, parce qu'en fait, dame méconnue, parce que c'est comme tu disais toi Luc, en fait comment on nous a caché ça. Non mais dans le sens, c'est hallucinant qu'une femme ait une... Ludo, je vois que tu fais un signe de tête un peu désapprobateur, mais...
Ça me fait bizarre quand tu dis méconnu, parce que...
Mais oui, mais c'est une question de génération, ça.
Ouais. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça.
Il n'y a pas eu de transmission là-dessus, en fait.
Ah oui, je suis d'accord.
Mais ouais, là, je vais vous rejoindre. On nous a parlé d'Apocalypse Now, Le Parrain.
Mais Maggie, tout le monde s'en branle. Quoi.
Bah, la différence, c'est que Marvin Langer, elle est partie, enfin, elle a continué à faire tout très populaire, donc ça oui. continue d'être. Voilà, elle a une cote de popularité qui est une cote d'amour du public oui. qui est hallucinante. Quoi.
Et pour aller dans ton sens, la grande différence entre les deux, c'est que Rosie Vart est une comédienne, c'est-à-dire qu'elle a tout fait, elle a fait énormément de drames, ainsi de suite. Marvin Langer n'est pas que ça, à la base, elle est pianiste, hein, pour tout dire, et puis elle a fait beaucoup de choses, des drames, ainsi de suite. Mais elle a ce côté comique à la Elie Semoun, Elie Kaku, machin et tout, c'est l'humour pied noir, machin et tout, qui marchera toujours plus. Rosie Vart n'était pas là-dedans, en fait. C'est, en gros, Rosie Vart, je veux dire, un truc qui va vous faire chier, mais c'est Cécile Auclair qui a réussi, quoi. Je veux dire, c'est une vraie comédienne.
P.A. Cécile. P.A. Cécile.
Voilà, qui a vraiment fait quelque chose.
Et... Toujours amoureux, toi.
Je suis donc, ouais, non, enfin, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter, parce que sinon, ça serait juste faire du trivia wiki, mais total respect pour ces deux grandes dames de la comédie française, en gros, même si elles ne l'ont pas faite. Mais voilà, donc c'était le petit point sur ces dames.
Et une grosse cuite et éventuellement encore un peu d'alcool dans le sang.
Tu n'as aucune excuse.
Je n'ai aucune excuse, mais j'ai du plaisir. Donc, alors, je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Après le visage de la série, une question me vint en tête. Hein. Comment se fait-il que le père, le huitième mari, est, je ne sais pas comment il s'appelle, est incarné par Pascal Légitimus, des Inconnus. Vous ne trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance
Attends,
qui ressemble à... Eh bien, écoutez-vous, avec 2 grammes dans le sens, ça se ressemble.
Il va où, là?
Le vivre.
Tu parles de Georges?
Ouais.
Moustache libérale?
Ouais, moustache, ouais, de ouf.
Attends, Pascal Légitimus, c'est noir.
Ouais, alors?
D'accord. Je m'arrête là.
Et alors?
Jean-Marc Thibault, il est aucun lien?
Si, il est créole.
Je n'ai rien. Honnêtement, avec des grammes dans le sens, ça se ressemble là-dessus. Il faut se poser cette question.
Il était vraiment tard. Hein.
Comment se fait-il que cet homme ait 60 ans en 1985 et également 60 ans en 2019? C'est fou quand même. Hein. Vous allez me dire, oui Nelson, tu dis de la merde. Tes chroniques, c'est de la merde. Eh bien, écoute Jean-Pierre Coff. Sache qu'ici, on n'apprend rien. On ne fait que rire de manière stupide. Et en fait, on fait pas de la cuisine non plus. Bref, je m'égare.
Oh, si peu.
C'est alors que je me suis posé la question de d'où venait, enfin, de quelle provenance, enfin, d'où est-ce que ça venait cette longévité, parce que quand même, monsieur a 60 ans, à 35 ans d'écart, quand même, c'est waouh. Était-il un être surnaturel, une créature immortelle, nommé seigneur du temps?
Je comprends rien.
Capable de vivre plusieurs milliers d'années en changeant de visage pour tromper la mort.
Appelle la sécu, Luc. Appelle la sécu.
J'adore l'alcool. Mais dans ce cas, pourquoi garder cette alopécie androgénétique?
Oh,
androgénique.
Ah, ça faisait longtemps, alopécie.
Attention. Un être d'une telle culture... Comment il pourrait opter pour une coupe à la France Hollande plutôt que Johnny Sin? Hashtag oui, je force. Après moult réflexions, je me suis dit qu'il devait juste bien s'hydrater la peau avant d'aller dormir.
C'est parce qu'elle chute. Wow.
Ouais, c'est la chute de l'alcool. Pour les personnes n'ayant jamais vu la série, un seul épisode de la série Doctor Who, les dernières minutes ont été aussi déstabilisantes que l'annonce de l'arrivée de Donald Trump à la tête de la plus grande puissance mondiale.
Ah, en fait, t'es en train de faire une review de tes chroniques. Là.
Un petit peu à l'arrivée du nouvel an. Je fais un petit peu.
Tu fais le point.
Exactement.
Le calendrier de l'avant de la vanne.
En fait. Exactement.
Pourquoi ? Pourquoi ?
Je sais pas. Je suis fatigué, laissez-moi dormir. Donc cette série de science-fiction aussi vieille que la fanbase de Plus belle la vie nous prouve que l'Angleterre, pourtant habituée à nous fournir la crème de la crème en humour, donc Charlie Chaplin, Mr Bean, le Brexit, il nous offre là certainement l'une des meilleures séries SF du monde, sauf avant la saison 1 parce que c'est aussi chiant qu'un épisode de Derek, et après saison 7 parce que Peter Capaldi.
Peter quoi ?
Capaldi. C'est en gros...
Okay.
C'est nul.
Ok.
Je m'égare.
C'est une ligne que... Si peu.
Voilà, c'est une ligne que j'ai écrite parce que fallait que je montre que je m'égare. Et finalement, je n'ai pas vraiment de faire une vraie chronique intelligente. Et si ce que vous dites, c'est 8 émissions et pas une seule chose vraiment intéressante est sortie de sa bouche, Lionel. Cependant, j'ai un amour sincère pour cette émission et ses chroniqueurs. Ça fait plaisir de parler de séries cultes ou qui seraient tombées dans l'oubli avec de telles personnes qui m'entourent. La vérité de pouvoir raconter des stupidités sur un personnage kawaii aux cheveux bleus n'a pas de prix à mon cœur. J'espère vous apporter beaucoup de plaisir avec mes chroniques et j'espère vous faire rire autant que je ris en les écrivant. Je compte bien continuer pour l'année 2020 et auquel cas, si ça ne vous plaît pas, je vous conseille une petite chronique qui peut vous donner des objets pour vous faire plaisir en promotion sur l'épisode précédent. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous fais un gros bisou.
Merci Nelson.
Tu as basé ta chronique sur le postulat que Georges, c'était Pascal Légitimus, c'est bien ça ?
Alors, oui, c'était un point de départ pour finalement, je me suis dit, attends, faut trouver un point de départ pour finalement juste vraiment partir en couille. Et j'ai réussi.
Tu prenais juste la chemise du gamin, c'était fait, hein.
Il y avait un enfant.
Bah.
On oublie tous les barrages qui nous empêchent d'exister. Quelque chose de neuf a tout changé. Quelque chose, et ça me fait avancer. On oublie tous les gens, tous les naufrages, tous les bateaux touchés, coulés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus peur d'aimer. Elle dit j'imagine des musiques qui se dansent pour toi. Elle dit j'imagine des mots dans le silence pour toi. Des jours et des nuits où la vie recommence comme ça encore une fois.
Alors les cobayes, est-ce que vous regarderez la série ? On va commencer avec Yuna. Qu'est-ce que t'en as pensé de cette série en regardant que le premier épisode, bien sûr ?
Ça se laisse regarder, mais non, je regarderai pas les 332 autres épisodes.
Karim.
Honnêtement, je sais pas si j'arriverai à me taper les 8658 heures
d'affilée.
Alors en fait, je suis perplexe. Je pense pas que ça serait une série que je boufferais en intégralité. Vraiment trop long, trop dense, hein, 8 saisons sur le coup, trop long. Mais agréablement surpris par le premier épisode. Et si il y a toujours cette volonté de vouloir écrire les textes un peu plus comme des textes de comédie, de théâtre, que comme des textes de sitcom qu'on a l'habitude en France, et c'est un peu le cas de Maggie Dantois dans le premier épisode, qui cherche quand même à avoir le bon mot, la belle phrase, ainsi de suite, ça peut se laisser faire. Et pour l'envie de recontextualisation, je serais assez chaud.
de enfin regarder un truc des années 80-90 qui ressemble aux années 80-90, pas un poncif fait en 2019 qui fait un revival 90. Donc ouais, pourquoi pas. Objectivement, pourquoi pas, par curiosité.
Alors, je voudrais te rattraper juste un instant. C'est 8325 minutes et non heures.
Ah, pardon, excuse-moi.
Oui, parce que ça me paraissait bizarre.
Ouais, quand même, ça fait plusieurs
minutes. 8325 heures, c'est l'impression que j'ai quand je regarde Star Wars.
Ah,
lequel ?
La prélogie, surtout. Nelson, alors, la série.
Alors, la série, après avoir regardé le premier épisode, malgré mon amour de Pascal Agilitimus, je pourrais pas me...
Il se ressemble pas, me putain.
Le mec signe et persiste, quoi.
C'est... Je persiste parce que j'ai raison. Et malgré ça, il y a vraiment, tu vois, contrairement à toutes les autres sitcoms qu'on a abordées, il n'y a pas une seule vanne qui a fait mouche. Je me suis vraiment fait chier de ouf pendant cet épisode. Et ouais, je suis prêt à utiliser le N-word, c'était nul.
Putain, il a utilisé le N-word.
Ouais, ouais, faites un hashtag.
Je pèse, putain, je pose mon casque.
Voilà.
Je me casse.
Tire.
Mais nul, mais t'as pas rigolé, mais pourquoi? Parce que tu connaissais pas l'humour, t'avais pas l'impression de voir tes parents tant que s'engueuler?
Non, bah le truc c'est.
J'ai pas de parents, c'est ça que t'allais me dire.
Oui, non, je sais pas, juste les timings des blagues sont pas les bonnes pour moi, les personnages sont. Je sais pas, ils me touchent pas, j'ai pas vraiment d'empathie pour eux, que ce soit l'enfant que je trouve complètement. Enfin, dans le premier épisode, parce que c'est le premier épisode, tu peux vraiment donner ton avis là-dessus.
C'est notre boulot, Nelson.
Non,
c'est notre boulot.
Parce que normalement,
c'est à nous de déterminer.
Le boulot, c'est le premier et le dernier. Il est où le dernier?
On l'a inventé.
Tu parlais à un mec qui confond.
Je confonds pas, il se ressemble.
Je crois que même le silence, ils comprennent les gens là. Rien qu'avec ce silence, ils comprennent ce qui est en train de se passer.
Il n'y aura pas de silence, il sera cuté au montage.
Non, il va le laisser.
Non, il va.
Pour le mépris.
M'en fous, les courriers d'insultes seront pour lui.
Ok. Bon, bah tant pis. Tant que j'ai des courriers, moi ça me va.
C'est ça le pire. C'est ça.
C'est une belle façon.
Bad buzz ou good buzz, c'est un buzz. Avec deux Z.
On n'a pas parlé de la construction des épisodes, parce que le premier est particulièrement lent et triste. Il n'y a pas d'effet sonore, il n'y a pas de lien entre les scènes, il n'y a pas de...
C'est vrai que les rires viennent après.
C'est chaud, le premier,
c'est
plat, quoi.
C'est du théâtre filmé sans...
Ouais, mais sans les portes qui claquent, quoi. Il y a pas de bruit, il y a rien, il se passe rien. Quoi. C'est,
Non, puis tout le premier épisode repose sur une seule vanne, c'est Maggie qui veut faire bonne impression auprès de la femme de ménage en faisant le ménage. Et pour moi, il y a que ça comme vanne réellement dans l'épisode. Il y a pas un melting pot de plusieurs gags. Là, je vois juste une grosse blague qui tombe à l'eau.
Et la blague aussi, c'est que la femme de ménage ne respecte pas le cliché qu'on accorde aux femmes de ménage.
Mais après, c'est juste une modification de la première vanne de base. C'est juste. Ouais.
Est-ce que, après, parce que je joue pas mal d'émissions, sitcom, il n'y a pas grande sitcom en fait, que tu as accroché. T'es sitcom ou pas du tout en fait? À part How I Met. Hein, et...
Oui, enfin, en vrai, il faut vraiment balancer de la vanne à gogo. Tu vois. Moi, je me dis, quitte à regarder des trucs qui sont faits pour se détendre, autant y aller à fond. Okay. Tu vois. Puis après, il faut que ce soit l'humour qui touche, évidemment. Tu vois, genre, y a la génération qui fait que, parce que 85, non seulement j'étais pas né, mais mon père, il était même pas en âge de procréer, tu vois. Je crois. Et,
Je connais pas ton père.
Moi non plus. Désolé papa.
T'es génial.
Non, t'es genre quand t'as un, tu vois, il y a un fossé générationnel qui est vraiment beaucoup trop important pour réellement, ne serait-ce que se mettre à la place des gens de l'époque et apprécier la vanne à sa juste valeur, tu vois.
Mais t'arriverais à faire de l'effort de, je sais pas, je prends un film qui va parler d'une époque qu'on n'a pas connue, ni toi, ni mes parents, ni quoi que ce soit.
Ouais.
T'arriverais plus à faire l'effort de contextualisation ou pas?
Alors, sur d'autres œuvres, oui, mais pas sur une sitcom. Parce que justement, sitcom, je me dis que c'est justement fait pour détente, ou alors vraiment, si t'as une critique là-dedans, c'est pas une critique poussée de la société, tu vois.
Ouais, c'est okay. Ouais, et puis c'est un vrai marqueur temporel, quoi. Si t'as pas les bases, si t'as pas les codes, t'es têche, quoi.
Exactement, c'est une sorte de marque-page de l'époque, en fait. C'est vraiment. On imprime un petit peu la jeunesse ou la vie adulte de l'époque. Et ça fait une sorte d'office de photo de la vie de tous les jours de ces personnes-là. Donc si tu n'as pas, on va dire, c'est les codes sociaux qu'il y avait à l'époque.
C'est un reflet de la réalité de l'époque.
Exactement.
T'as-tu donc sur trois noms à zéro. Oui. Quelle tristesse. Oh, la mort d'une série ce soir. I can give you a voice bred with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Put it in harmony, let the words ring. Carry thoughts in the songs we sing. Je te donne minute, je te donne.
le mémo. Quand ta voix les emporte à ton propre tempo, une épaule fragile et solide à la fois, ce que j'imagine et ce que je crois. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts.
Et c'est la fin du début de la fin. Merci, merci Tao pour son commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Nelson, comment on fait pour proposer une série pour le début de la fin?
Faut aller sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles.
5 étoiles.
Et, 5 étoiles, et éventuellement, tu proposes ta série. Et si tu as envie, tu peux faire un commentaire positif ou négatif de le podcast.
Et ça marche. Merci.
De rien.
Merci Ludo, merci Karim, merci Yuna. Notre invité du podcast sur Autoval Turfu.
Merci, merci. Yuna. Merci
podcast
Yuna.
De qualité.
Ben, c'était podcast de qualité. Et merci Nelson.
De rien, je crois.
Peut-être.
Retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler d'une autre série télé en ayant vu que le premier et le dernier épisode. hervéturfu@gmail.com pour le service après-vente. Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission @le début de la fin_. Retrouvalturfu.com pour retrouver tous les épisodes du début de la fin et bien sûr également notre podcast cinéma et pop culture. Retour vers le Turfu. Partagez un maximum l'épisode si ça vous a plu. Bisous, au mois prochain. Allez, ciao.
Ciao, bisous.
Bisous. Bisous. J'ai téléchargé des images pour prouver un petit peu ma vision des choses.
Ah ouais, parce que
c'est radiophonique, ça, en plus.
Oui, mais non, ça, c'est hors radio.
C'est hors podcasting.
Hors podcasting.
Oui, parce que la ressemblance entre Georges Moustaki, lui, là, et
Jean-Marc Thibault. Jean-Marc Moustaki. T'as inventé des noms, toi aussi, c'est impressionnant.
Ouais. Bah, c'est pas neuf.
Écoute, dans ma tête, c'est cohérent.
Mais. Mais t'es sérieux, mec?
Les moustaches.
Mais t'es sérieux? Mais t'étais dans le noir quand t'as vu ça?
Bah non, j'étais bourré.
Regarde, en vignette, je veux ça. Je veux, en vignette, il faut
mais
ça. Il faut un montage avec les deux à côté.
Si. Mais ils se ressemblent pas du tout.
Mais si, de ouf.
Mais non!
Il y a une moustache!
Mais je m'en bats les couilles, ils se ressemblent pas! Mais j'ai trouvé quand j'étais bourré.